si j'avais vous rassuré au travers de ma question ou pas d'ailleurs.
Avec Pauline, alors je vais peut-être venir vers toi parce que
voilà, c'est bon, pas.
Bon, voilà. Ok.
Oui, donc voilà, je disais que j'étais contente de parler à des professionnels parce que j'ai toujours eu peur en fait du monde de la psychiatrie. Et certains films comme Vol au-dessus d'un nid de coucou, Chapeau d'or ou encore L'échange n'ont rien arrangé à ma peur. Et tous ces films ont en fait en commun qu'ils parlent d'une fabrication de la folie ou de l'internement de force de personnes qui représentaient un danger pour les institutions politiques ou juste une différence par rapport à la société. Alors ma question est, si la psychiatrie apparaît pour une famille ou une institution un moyen facile et légal de se débarrasser de quelqu'un, aujourd'hui, qu'en est-il du droit d'un interné qui n'a pas demandé à l'être, sachant que tout ce qu'il pourra dire sera, ou faire sera retenu contre lui?
Merci. Alors, oui, Michel Patrice, pour répondre.
Alors, j'ai un peu de mémoire. Il y a 2 ans, j'étais invité à cet événement colossal qui est le Forum de bioéthique. Et en préambule de notre table ronde, quelqu'un avait lu, on peut dire, un manifeste de Marilyn Monroe contre la psychiatrie. Voilà. Bon, ça avait, je dirais, beaucoup plu. Ça a tout de suite donné à la psychiatrie un visage impopulaire et populaire. Ça va dans le sens du poil et de ce que tout le monde a envie de penser, et tout le monde a envie de penser qu'il n'est pas fou, et qu'il anticipe déjà sur la violence qui lui serait faite si un jour quelqu'un se permettait de le décréter malade mental et l'hospitaliserait, voire userait de contraintes pour l'hospitaliser. Ceci, bien sûr, est un problème continu, éternel de la psychiatrie, et qui a suscité, entre autres, des mouvements tels que l'antipsychiatrie, de Cooper, de Passaglia, en Italie, et qui ont tous dénoncé la violence de la psychiatrie et, à juste titre, parfois, l'arbitraire des psychiatres devant la décision d'internement. Alors, simplement une mise au point. C'est que nous nous sommes alignés en France, comme dans beaucoup de pays européens, sur un modèle anglo-saxon, à savoir que l'internement, l'usage de la contrainte, c'est judiciarisé et que tout malade interné a un recours devant la loi, a droit d'être représenté par un avocat, a droit de s'exprimer et d'être auditée par un magistrat. Alors, bien sûr, il y a là quelque chose qui tient de l'illusion, parce que le magistrat, dans le doute, eh bien, il va s'adresser à un psychiatre, un expert, enfin, un expert en chamanisme, un expert en psychiatrie, pour dire est-ce que ce malade nécessite effectivement des soins hospitaliers. Donc, c'est un des éléments d'évolution de notre psychiatrie actuelle, c'est cette référence plus forte et plus formelle à la loi et aux droits de la personne.
Alors pour le passage que vous citiez, c'était Nathalie Bach, effectivement la comédienne qui avait fait le choix de lire Marilyn Monroe, et on peut le retrouver sur notre site internet, en effet. Monsieur, vous souhaitiez poser une question?
Merci. Dans le texte sur la loi d'urgence, qui risque d'être constitutionnalisée bientôt, il y a une mention concernant le comportement, des comportements qui peuvent être jugés pas tout à fait normaux, habituels. Et quand j'ai lu ce texte, je me suis dit que ça pouvait être très dangereux pour beaucoup de gens, et en particulier pour les gens qui sont soignés par la psychiatrie ou la psychanalyse. Et une précision encore, j'ai lu que la SNCF, par exemple, allait mettre en place des moyens techniques, électroniques, de détection automatique de gestes, un peu comme le TOC, hein, qui pourraient laisser penser que cette personne constitue un danger pour les voyageurs dans les wagons ou les chemins de fer. Alors, je voulais savoir ce que les psychiatres et les psychanalystes pensent de ça.
Qui va répondre ?
Daniel ?
C'est une des dérives de ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire de réduire l'être humain à un signe. Et en faire écho à ce que tu dis, il y a quelque chose qui me frappe. J'aime beaucoup lire le monde à travers les séries qui passent à la télé, les choses comme ça. Il y a actuellement, parmi les héros qu'on montre dans des séries, des gens qui sont capables, à partir d'un visage, de dire si la personne ment, si elle dit la vérité, si elle est en colère, si... C'est-à-dire cette capacité qu'on aurait de donner au non-verbal la capacité prédictive de quelque chose. À partir du moment où on est dans une société qui accepte ce discours, comme véritable discours sur l'homme, eh bien, il y a des machines qui sont capables de détecter et de reconnaître des faciès, des expressions faciales, et d'en déduire du coup de façon logique quelque chose. Et effectivement, on peut reconnaître là un réel danger.
Alors, Monsieur Agassos, Emmanuel Hoff, vous voulez aussi intervenir, Catherine ?
Oui, je voulais dire une première chose. Je crois que le regard sur l'autre, et se rassurer en disant que l'autre est fou, ça ne concerne pas uniquement la société vis-à-vis des patients qui sont fous, mais ça concerne pas mal de personnes vis-à-vis des psychiatres. Je crois que dans les études médicales, il n'y a pas un seul interne qui soit passé dans le service de psychiatrie sans se dire les psychiatres sont un petit peu fous. Ça fait partie des choses que tous les étudiants en médecine, à un moment ou à un autre, pensent. Donc je pense qu'il faut relativiser. C'est une autre forme de stigmatisation à laquelle il faut faire attention. Bon. La deuxième chose, c'est en ce qui concerne justement ces nouvelles formes de stigmatisation. Celles qui consistent à dire qu'on va repérer quelqu'un à travers peut-être un certain nombre de minutes, peut-être comment on trouve que je m'exprime avec eux.
D'une manière vivante.
Il était à côté de moi quand j'ai dit « moi, je revendique mon brin de folie », il m'a répondu « j'en suis témoin ». Il a répondu « j'en suis témoin ». Donc je pense que ça peut aller très loin, parce qu'il y a quelques années, rappelons-nous, il y avait des tentatives de création de portails aux aéroports pour détecter ceux qui seraient porteurs de gènes de terrorisme, par exemple. Donc, c'est pas loin. C'est pas loin, oui. Donc, tout ce qui est science comportementale, génétique comportementale en particulier, c'est des choses dont il faut se méfier. Sur le plan bioéthique, on ne peut pas réduire une personne à un symptôme ou à un signe ou à un gène. Donc, effectivement, c'est des choses qui ne peuvent qu'être... être absolument contraire à la dignité humaine.
Et questionner Emmanuel. Bah, allez-y si vous voulez vous exprimer. N'hésitez pas.
Rapidement, effectivement, il ne faut pas réduire quelqu'un à un signe, parce qu'aujourd'hui, le fou est une idole. C'est-à-dire que dans la société de consommation, à la recherche identitaire ou à la recherche de son soi, les comportements dits de folie sont des choses qui sont prises plus facilement que révéler son soi personnel. Et donc, c'est difficile de faire la part des choses entre un fou et un fou pseudo-fou.
C'est-à-dire celui qui est dans la transgression affichée, volontaire.
Transgression, recherche d'identité, ou simplement avoir envie d'être celui qui compte. Avoir envie d'être celui qui est puissant, celui qui a envie qu'on le voit.
Qu'on le voit. Catherine Jussel,
on imagine bien que les adolescents, en plus, ils sont juste à la charnière de tout ça, puisque eux, leur but, c'est de trouver une identité, ils ne savent pas comment la trouver, pour beaucoup, ils cherchent des pistes, et notamment, ils provoquent. Donc, vous pouvez imaginer que les comportements provocateurs, ils seraient les premiers à être vraiment, éventuellement, désignés, stigmatisés. Bon. Après, c'est quand même compliqué aussi de se dire qu'on ne fait rien après tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il se passe des choses très graves dans le monde, y compris chez nous. Beaucoup de gens ont très peur. Je ne sais pas comment ça se passe à Strasbourg, mais il est clair qu'à Paris, après ce qui s'est passé, c'est terrible. Enfin, le changement est clair, quoi, dans plein de domaines. Et donc, on ne peut pas non plus juste dire que ça, il ne faut pas le faire. Sûrement, c'est vrai. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? La difficulté, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on met en amont, on l'a dit, de prévention, de compréhension, de recherche de points qui pourraient être des points d'ancrage pour aller désamorcer la souffrance de certains qui vont la projeter dans des choses très négatives. C'est là où on a du boulot à faire, le pain sur la planche, et les cerveaux devraient travailler à ça, sans doute plus qu'avec des logiciels de repérage de comportement, ça c'est vrai, parce que la piste est... Enfin, moi j'ai un film en tête, c'est Bienvenue sur Gattaca, c'est vraiment un film qui nous fait penser à plein de choses. Alain Bauer, il y a 2 ans, nous parlait de, on est tous, très vite, on va être tous cartographiés. Sur le fond, quand il y a un meurtre, c'est quand même utile, mais qui a ces données, on en fait quoi ? Ça, c'est inquiétant. Donc moi, je dirais, le problème, c'est le saut entre le repérage et ce qu'on fait. C'est ça la difficulté. Et qu'est-ce qu'on fait pour peut-être faire avoir d'autres pistes d'action, et particulièrement au niveau des ados, parce que eux, quand il y a une souffrance qui pourrait les amener juste à être provocateurs, mais secondairement à entrer dans une pathologie, quand on voit qu'il y a 16% de filles déprimées sur nos 15 000 quelques, et qu'il y en a moins de, je ne sais plus combien de pourcents, mais très peu qui consultent, ça veut dire qu'elles sont déprimées à une échelle de dépression qu'on a, et qu'elles ne sont pas prises en charge. Donc voilà, ça c'est un vrai problème, on n'a pas besoin des comportements, machin, il faut faire quelque chose pour aller dire dans les collèges, dans les lycées, vous avez peur d'aller voir un psy, bah, c'est quoi un psy? Parlons des psys, faisons-les créer sur ça quoi comme tête une psy. Travaillant avec les profs d'art appliqué, et puis un psy après va regarder les BD qu'ils ont fait et rigole avec eux sur la tête d'un psy et explique ce que c'est qu'une psychothérapie. Parce que sinon, on tournera toujours en rond hein, et on finira par les comportements. Là, évidemment, la piste est extrêmement glissante.
Alors, le micro est déjà là-bas, je crois, madame. Hein. Et puis après, il y a une demande ici. Et vous, madame. Ah oui, et pardon, Pierrette. Pardon.
Bonjour. Dans certains domaines de la médecine, on sait que dans 5 ans, on aura un médicament, dans 10 ans, il y a des chances qu'on puisse traiter cette maladie. Vous nous avez parlé de l'évolution de la psychiatrie. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelque chose sur l'avenir, qu'on peut s'imaginer comme avenir pour la psychiatrie dans les prochaines années?
Merci. Quel avenir pour la psychiatrie? Oui, Michel Patrice, c'est un problème. Hein. En plus, je rappelle juste sur son titre, parce que je ne sais pas si on l'a assez dit, donc Michel Patrice n'est pas chaman, en tout cas. Il est aussi, quand même, l'ancien patron de la psychiatrie à Strasbourg, au CHU Strasbourg. Hein. Voilà.
Oui, alors, je suis peut-être bien placé pour parler de l'avenir, puisque j'ai quitté l'université, mais j'exerce toujours comme psychiatre et psychanalyste. Je ne dirai pas où, je n'ai pas le droit de faire une publicité, je vais tourner tout seul. Je parle sur la surveillance de ma voisine, qui est une bienveillante, méthodique, universitaire. Dynamique. J'ai assisté à une évolution sur quelques décennies de la manière dont on formait les psychiatres. C'est très important parce que les psychiatres que vous allez consulter demain, ceux que vous rencontrerez dans les services, ce sont ceux que nous avons formés et ceux que nous formons. Et on peut dire que cette formation s'est progressivement alignée, comme on l'a dit, sur un certain formatage américain, DSM, une certaine distanciation avec le patient, où on détecte qu'on décrit des comportements, on ne veut plus théoriser, on ne palabre plus sur le lien, la relation qu'on a avec le patient, on fait un diagnostic, critère par critère, et de ce sens-là, c'est pas très optimiste que je vais vous dire, la psychiatrie va vers une sorte de déshumanisation. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que nous sommes en pleine crise économique, que le système hospitalier est en faillite et qu'il y aura de moins en moins de lits en psychiatrie. Donc ça veut dire que le risque, la probabilité d'être interné diminue. Par manque de place. Voilà, tout simplement.
Alors Catherine, je sers très vite et puis après je vous passe le micro à Thomas Bédard.
Mais pour compléter, c'est vrai qu'il y a d'autres pays où effectivement tous ces lits ont été fermés, le système de soins n'est pas le même et on voit que les patients adultes ils se retrouvent en adulte très clairement, ce que Charles disait, avec après aussi le système carcéral qui va jouer dans certains moments. Donc ça c'est très compliqué. Moi, je me dis qu'on est au carrefour, c'est-à-dire qu'il faut qu'on résiste. Fondamentalement, il faut que la psychiatrie, la pédopsychiatrie continue à affirmer que la psychopathologie, c'est-à-dire la prise en charge de ce qui se passe dans la relation avec un malade, de ce qu'on ressent, de ce qu'une équipe ressent, permet d'adapter des traitements qui sont nouveaux, mais qui doivent être différenciés et pas uniquement protocolisés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ne pas être allergique aux nouvelles découvertes qui peuvent nous faire comprendre comment on agit. Nous, on travaille beaucoup avec les enfants autistes sur les soins intégratifs. C'est-à-dire qu'on prend en compte les recherches qui montrent
que sur un plan cognitif, sur le plan de leur vision cérébrale par exemple, ils ont énormément de mal à passer par le mot, ils vont d'abord passer par l'image et le mot ne viendra qu'après, et que secondairement, si on accroche ça, on peut aller vers eux. Si on prend en charge ça et qu'on l'articule, encore une fois, à quelque chose de haute couture pour ce patient-là, à ce moment-là de sa vie, avec son histoire, ça c'est assez à la fois structuraliste et phénoménologique et psychanalytique, alors on avancera. Si par contre, on en reste, et ça c'est bien inquiétant parce que c'est quelque chose qui arrive, à figer sur une IRM fonctionnelle ou sur une autre, un cerveau, en disant voilà, c'est l'image et c'est comme ça définitivement, alors on ira vers quelque chose où on disait les comportements sont au premier plan. Mais on se bat, hein. On se bat, c'est difficile sur un plan universitaire. Hein. Par exemple, on voit les thèses de médecine. Pour venir ici, j'en ai rebossé une dont j'avais été la présidente sur l'histoire de la psychiatrie, qui était une thèse magnifique sur l'histoire du fou dans la psychiatrie. Aujourd'hui, dans notre fac, par exemple, c'est 50 pages et uniquement des critères scientifiques. Donc les internes, on va les former ailleurs, quoi. On va travailler avec eux. Dans les cours, on met du « pour en savoir plus », parce qu'on leur fait la base, puis après, on fait des diapos pour en savoir plus, puis il y en a qui viennent nous parler. Donc, c'est cette résistance-là, c'est garder notre identité et souscrire un certain nombre de choses auxquelles on est obligé de souscrire, mais ne pas lâcher le reste, jamais, et en lien avec la médecine chirurgicale, parce que c'est avec eux qu'on arrivera à se battre, pas tout seul dans notre coin.
Voilà. Alors, donc, je rappelle qu'il y a parmi nous aussi des lycéens de Thonon-les-Bains, Jeanne d'Arc à Thonon-les-Bains, et vous avez une question.
Bonjour à tous. On parle depuis tout à l'heure de la folie, mais finalement, qu'est-ce qui caractérise la folie? Quand est-ce qu'on peut dire qu'une personne est atteinte de folie? Donc ça, c'est la première question. Ensuite, je me demande si la folie, elle est forcément mauvaise ou si on peut avoir une folie qui permet de s'épanouir. Voilà. Et ensuite, si la différence entre génie et folie est vraiment grande, quoi, parce que mis à part le succès qui en découle du génie, est-ce que la folie peut...
Très loin.
Voilà.
voilà. Merci pour votre question, merci infiniment. Alors, qui voudrait répondre à la... Oui, Catherine. Oui.
C'est passionnant. D'abord, ça dépend de l'âge, la folie. Parce que à un âge donné, avoir peur que les araignées vous bouffent la nuit et avoir besoin de papa-maman, c'est normal. Par exemple, à 3 ans, à 12 ans, c'est compliqué. Donc déjà, il y a un problème d'âge. Et le mot folie est peut-être pas le bon, mais en tout cas, il y a des choses qui sont ancrées dans quelque chose de pathologique. Ce n'est pas dans le développement habituel d'un enfant. Cette angoisse-là n'est pas quelque chose qui va lui permettre d'avancer, mais c'est quelque chose, en fait, qui va le coincer. Donc il y a l'âge. Secondairement, il y a la dimension et la catégorie. C'est là la différence entre le DSM peut-être et d'autres aussi. C'est que si on prend l'exemple de l'angoisse et de l'inquiétude, on est tous plus ou moins angoissés à un moment donné et souvent inquiets. Quand est-ce que ça devient un trouble anxieux? C'est-à-dire vraiment une maladie anxieuse. C'est difficile parce que certaines personnes vont, dans une famille donnée, justement avec notre culture familiale et tout, dire « Ben non, s'il n'est pas anxieux, il ne fait pas partie de la famille. » Il est bizarre, il n'est pas anxieux, il n'est pas de chez nous. Donc là, à la limite, il est fou, il n'est pas comme nous. D'autres vont dire « Ah non, il est beaucoup trop anxieux. » Enfin bon, donc vous voyez, déjà, la dimension est difficile. Alors après, les bornes, elles sont assez simples quand elles sont très graves. Ce que disait le collègue tout à l'heure. Quand un patient délirant décide d'aller tuer quelqu'un, on ne va quand même pas dire que ah ben, c'est une particularité de son fonctionnement. Non, on va empêcher de tuer la personne. Bon, quelle que soit cette personne, même si on la déteste. Donc, il y a une borne. Hein, y a une borne. Mais vraiment, le problème de la dimension et de la catégorie est quelque chose d'extrêmement important. Et alors, en pédopsychiatrie, encore plus qu'ailleurs. Hein, puisqu'un adolescent, j'allais dire, il est normalement fou à certains moments, puisqu'il essaye de trouver son identité. Et puis alors, génie, art, folie, il y a plein de choses écrites là-dessus, extraordinaires. Les états limites, les gens sont borderline, c'est-à-dire qui ont des grands moments d'impulsivité, des moments un peu de variation de l'humeur, sont souvent des gens qui créent énormément. Si on les colle sous neuroleptique et qu'on abrase ça, ils ne créent plus et ils se suicident. Alors ça ne veut pas dire non plus qu'on va les laisser s'enferrer à se suicider parce qu'à certains moments, ils se disent « je suis nul » et à ce moment-là, ils se trompent par la fenêtre. Donc, le génie créatif, la folie, la pathologie, on est dans la dimension aussi. Est-ce qu'il aurait fallu traiter Van Gogh? C'est compliqué comme truc. Oui, sûrement un peu, pour qu'il souffre moins quand même. Parce qu'il a quand même souffert à un point horrible. Moi, pour moi, mon signal d'alarme, hein, ça c'est sans doute à cause de la psychanalyse, c'est le type d'angoisse et le degré de souffrance. Quand quelqu'un, un schizophrène par exemple, vous explique que là, il va très mal parce qu'il a l'impression que son corps se retourne. Et vous lui demandez, mais ça veut dire quoi? Ben, il dit, ben, c'est pas une comparaison. La manche de mon manteau se retourne comme mon estomac se retourne. Et il vous dit, là, c'est insupportable. Je pense que là, on est hors des normes humaines. C'est-à-dire que c'est invivable. C'est juste, vous fracassez la tête contre un mur. On ne va quand même pas lui dire, ah, ben, c'est très intéressant, continuons comme ça, créez, ça va aller. Bon, non. Bon. Par contre, parfois, dans un lien thérapeutique fort, en analyse, quand on parle de transfert, ou en tout cas de relations fortes, certaines interprétations de l'angoisse vont aider. Je me rappelle avoir lu plusieurs ouvrages, notamment phénoménologiques. Il y avait une histoire que je trouve très belle. C'est un patient schizophrène qui est dans une séance avec son analyste. L'analyste commence, c'est un peu fatigant, il regarde la montre et le patient se lève et dit « je vais prendre un couteau ». Alors là, deux solutions, DSL, dangereux, c'est un petit pari dessus, il colle une injection et tout. Le psychanalyste connaît son patient et sait ses angoisses d'abandon, sait aussi sa problématique du temps. Ce qu'on retrouve, c'est les autistes qui ne savent pas ce qu'il y a après. C'est pour ça qu'on fait des emplois du temps type teach avec des pictogrammes qui disent, tu vois, là, non, après, tu vas aller là, le bain, c'est là. Ça les rassure beaucoup, sinon ils n'existent plus. Donc le psychanalyste dit, ah, vous m'avez vu regarder la montre, c'est bientôt la fin de votre séance. Le temps est comme une coupure entre nous, mais nous nous retrouverons demain, et il n'y a aucun problème, le lien va rester. Le patient se rassoit et tout va très bien. Donc vous voyez, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait du matériel? Oui, évidemment, c'est pas basique de, quand on regarde une pendule, vouloir tuer l'autre. Ça, c'est quand même, on est dans les bornes compliquées. Mais il y a deux façons d'y réagir. Par contre, pour y réagir, comme je viens de vous le dire, il faut avoir connaissance de ce patient, accès à son contre-transfert, une équipe derrière, des tas de choses qui se passent pour arriver à découpler sa pensée, à entrer dans sa psyché pour essayer de l'aider à se la réapproprier. Ça, ça prend du temps. C'est-à-dire que les actes de soins sont plus longs, mais gagnent aussi de l'argent parce qu'il sera moins hospitalisé, moins contentionné, etc. etc.
Alors, juste encore deux réponses.